Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Parce que c'est la vie comme ça. C'est
les grandes gueules du sport.
Déjà, mais là, c'est ton route.
Ah, là, c'est plus dur. Pardon.
Georges Quilino.
C'était bien Denis Charvet qui avait. Oh, c'était pas un chat, là. C'était un
râle.
C'était un tigre dans la gorge.
Un guépard. Oui.
Denis Charvet est bien là, Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Christophe Cessieux est présent. Tiens, dans un instant, Christophe va prendre le brassard de capitaine à une semaine de France-Afrique du Sud. Tu vas nous dire quoi, Christophe, dans un instant?
Ah ben, je veux dire qu'il faut abattre le box. Quoi.
Ah oui,
chasser le
je vais te dire,
on n'est pas là pour attiser la
haine. Tu nous auras en face, tu leur parles pas pareil.
Si, avec un gros fusil, oui. Autrement, je détale quand même.
Un fusil à billes, évidemment. En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport. Aujourd'hui, vous pouvez gagner votre smartphone Stellar X5S édition Chamonix Mont Blanc. Le nouveau smartphone outdoor de la marque française CrossCall, pensé pour les passionnés de sport. Pour remporter votre smartphone CrossCall, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais d'abord, le tennis, c'est le week-end final, on l'a dit, au Rolex Paris Masters. Et où sont les Français?
RMC, le ring des GG.
Cette année, c'est extraordinaire. Gaël Monfils, à 38 ans, il se qualifie pour les 8e de l'Open d'Australie. Il n'avait plus battu un top 5 en Grand Chelem depuis 2008.
Terence Atman, with the biggest win of his career. He has beaten down Taylor Fritz's door.
C'est fait, le tombe sur le dos.
C'est incroyable.
Louise Boisson, 361e mondial, wildcard.
Elle est allongée sur le cours.
Et son demi-finale de Roland-Garros. Et Mirandeva qui range ses raquettes.
Jamais vu.
La balle en double faute. Et oui, il a tenté encore les doubles fautes de Medvedev et Arthur Rinderknecht en finale.
C'est complètement
vrai. Premier français en finale d'un match sur ville depuis Hugo Humbert, bien sûr, l'année dernière à Bercy.
Ah, on a retracé les bons moments là du tennis français cette saison. Il y en a eu les joueurs français. Tiens, les hommes n'ont pas passé le milieu de semaine mercredi au dernier Masters 1000 de la saison, donc à Paris. Écoutez bien, pour la troisième fois en 40 éditions, il n'y avait pas de Français en huitième de finale du tournoi parisien. Voilà, troisième fois en 40 éditions, pas de Français en huitième de finale du tournoi parisien. Avant le Final 8 de la Coupe Davis pour nos Bleus le 18 novembre. Hein, je vous rappelle que Bennett nous a dit qu'on allait gagner la Coupe Davis, tout simplement. Le bilan de notre saison est celui-là. Une demi-finale à Roland pour Loïs Boisson, on l'a écouté. Pas mieux qu'un huitième de finale en Grand Chelem chez les hommes. Une finale de Masters 1000 pour Rinderknecht à Shanghai. Ce lundi, il y aura 14 Français dans le top 100. Deuxième meilleur contingent derrière les Américains. Les GG, ce matin, je vous pose cette question. La saison du tennis français est-elle encourageante ou décevante? J'ai trois déçus. Marion Bartoli, Denis Charvet et Christophe Cessieux. Un bienheureux qui trouve la saison encourageante. C'est Jérôme Pinault.
Je sais pas comment, mais bon.
Jérôme qui part de loin.
Pire que l'année dernière, donc je trouvais que c'était encourageant.
Bah, on va en parler dans quelques instants. Fils, ouais. Sur le compte X des grandes gueules du sport, vous avez voté. Vous êtes pour l'instant 52% à penser décevante. Donc c'est serré quand même. Hein. Tu vois, Jérôme, t'as le peuple des grandes gueules du sport qui t'appuie quand même un petit peu. On vous attend au 32-16 et sur notre WhatsApp au 06 12 424 424. La voix du tennis nous rejoint. En studio, Eric Salio qui a commenté toute la saison sur RMC comme d'habitude. Salut Eric.
Salut à tous les
gens. Salut Eric.
Eric qui est venu avec une coupe de cheveux que je qualifierais de premium.
Jeune homme.
Voilà, c'est ça pour son dernier week-end de Masters 1000.
Il ressemble plus à Lionel Jospin.
Il est long, faut aller chez le coiffeur, c'est tout.
C'est vrai. Hein,
mais ils étaient trop longs.
Par contre, ça t'a blanchi quand même.
Ouais. Oui. Ça te pose un problème?
Non, j'aime bien
entre grisonnants. On disait donc encourageant ou décevant la saison des Français. Eric, avant de débattre avec les GG, toi tu as un autre mot pour définir la saison des Bleus, c'est ça?
Oui, bah, j'ai envie de,
bah oui, hein.
De dire frustrante.
Ah oui, d'accord.
Je peux développer ou pas?
Bien sûr, allez-y.
Parce que j'ai l'impression qu'on a assisté à une course de 5000 et puis... À 3-4 tours de l'arrivée, il y a plus personne. Ils sont tous fait larguer dans le peloton, parce que je rappelle qu'on a eu un début de saison fantastique. Muller gagne à Hong Kong, Gaël Monfils gagne à Auckland, et vous l'avez entendu, ensuite il fait un super Open d'Australie. Hugo Humbert qui gagne Marseille, et puis Arthur Fils, régularité extraordinaire en Masters 1000. Il est 14 mondial quand arrive Roland-Garros. Souvenez-vous, il était promis au top 10. Ça faisait aucun doute.
Et là, top 10.
Top 10.
Il y a un peu tu mets l'accent. Qui n'est pas tout à fait la même chose que le top 10.
C'est un peu en dessous, c'est
14e. Le top 10. Comme Richard Gasquet.
Ah, d'accord.
On le sait, va, visiblement. Découvrez l'émission, quoi.
Très bien. Une émission de
il a été fauché en plein vol. Donc, la frustration pour moi, elle est là. Et l'autre frustration, c'est qu'Hugo Humbert a quasiment terminé sa saison. Je crois pas, on le verra sûrement pas en Coupe Davis à Bologne. Donc, non, moi, je suis hyper frustré. Puis, j'ai un chiffre qui me hante.
Oula. Ouf. C'était Halloween hier.
Prends mon souffle parce que voilà, j'ai des boules.
Si vous êtes au volant, mettez les warnings, arrêtez-vous parce que visiblement ça va être effrayant.
C'est quand même le chiffre. 15e chelem d'affilée où on n'est pas capable de placer un mec en quart de finale.
C'est incroyable.
Ça commence à faire trop.
Je suis effrayé. Non, c'est vrai que ça fait beaucoup.
Bah après, ça démarre de quel côté tu places.
Avant de t'écouter, Marion, j'aimerais qu'on entende les arguments de l'homme qui trouve la saison encourageante, Jérôme Pinault.
Non, mais encourageante parce que déjà l'an dernier, ça n'a pas été une saison extraordinaire. Donc, on a quelques espoirs qui sont nés cette année. C'est pour ça que je dis encourageante, parce que chez les garçons, Hugo Humbert, comme tu le dis, a atteint un très bon niveau de tennis et arrivé quand on a besoin de le voir sur le tournoi parisien, notamment. Il est forfait, donc c'est évidemment frustrant, mais ça reste encourageant. Arthur Fils, on espère que cette blessure au dos sera pas récurrente et va continuer sa progression. Je sais que t'en doutes, Eric, mais ça laisse quand même présager d'un avenir un peu meilleur.
T'en sais rien. La vérité, tu dis ça, c'est, je sais pas pourquoi, c'est gratuit de dire ça. Tu sais pas si l'avenir est encourageant.
Bah, quand t'as des jeunes joueurs qui atteignent presque les portes du top 10.
Mais non,
ça
mais
peut éventuellement te dire que.
Mais oui, mais déjà, justement, il arrive à la 14e place.
Un jour, il rentrait dans ce top 10.
Mais non, parce que tu attends tellement, et puis au dernier moment, comme dit Eric, puis il y a.
Oui.
Il n'y a personne à l'arrivée.
C'est pas la boule de cristal. On me
j'ai l'impression que c'est la même chose depuis 10 ans.
Oui, je la trouve encourageante. T'as des nouveaux noms, t'as des joueurs qui arrivent à un très bon niveau. Il y a eu des tournois de gagner en début d'année. Et puis surtout, cette.
Non, mais là, on parle de la saison en cours. Je ne parle pas des dernières années. Je parle là de.
C'est la saison, c'est début d'année.
Tout le monde nous dit, on se gargarise du fait qu'il y ait 14 Français dans les 100 meilleurs mondiaux.
13.
Est-ce que t'arrives à les donner, toi, les 14?
Non, je ne l'ai pas. Non,
on a essayé hier à la rédaction. Je suis arrivé péniblement à 6. Je suis monté à 9 avec un peu d'être, rien, vous n'avez pas trouvé les gars.
Moi, je ne veux pas t'aider.
Mais alors, c'est bien la densité, mais ce qu'on veut dans le sport de haut niveau, c'est des mecs qui arrivent justement en quart de finale,
carré,
au moins dans un quart
pour
de finale.
Pour gagner des Master 1000 quand même, tu peux gagner des Master 1000 aussi.
Je t'ai pas dit que la saison a été fantastique et que j'ai hâte que la nouvelle reprenne. Je te dis juste que c'est quand même encourageant.
Mais moi, je vois peut-être la bouteille à moitié vide.
C'est une bouteille.
C'est pas
vrai. Arthur Fils. T'as vu la première moitié, c'est ça le problème.
Toi, tu vois les bouteilles.
Arthur Fils nous a mis des étoiles dans les yeux quand il est 13e en début de saison.
Mais il est blessé.
On se dit, ça y est, il va rentrer dans le top 10.
Oui, mais ça, c'est la faute
à. Et puis les blessures qui s'accumulent, Et aujourd'hui, mais où est passé
Arthur Fils? Prends le cas des
Bulls. C'est pas Marc Bartoli
va vous régler le problème.
Non, attends, je suis en dernière. Je suis à la 14e place. Et là, c'est
Mario après.
On pense qu'il va rentrer dans les 10. Et boum, il tombe à la 24e place. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez? On est déçus.
Non, mais je laisse parler Mario après. Mais. Justement, tu parles d'Arthur Fils. Il y a un problème aussi avec la presse. Je suis désolé. Arthur Fils, il a fait quand il gagne, je sais plus quoi, où il est en tant qu'on le voit très beau Roland Garros. Il fait la première page de l'équipe. Il fait 4 pages dans l'équipe, 5 pages.
Ah, c'était avant Roland. Ça.
Avant Roland, je te parle. Oui.
Oui, mais ça, c'est là, normal. Mais comme Bob Sassas quand il va gagner le Dauphiné libéré.
Tu peux t'emballer, mais là tu le mets sur un piédestal. Tu te dis le mec qui va il a gagné Roland Garros.
C'est pas les journalistes qui l'ont blessé.
Mais non, c'est le problème. C'est le problème de ces grands sports individuels en France où on attend des champions plus tard. C'est la même chose en Formule 1, c'est la même chose en tennis et en vélo.
Et attends, le successeur
on a pas
de
champion depuis les années 80.
Non, c'est pas grand
s'il vous vélo. Plaît, donc, Marion Bartoli est déçu par la saison des Français et on l'a pas encore entendu. Et on a quand même envie d'entendre Marion.
Marion,
on t'ouvre le passage.
Non, mais tout d'abord, j'étais extrêmement contente de réécouter ces extraits radiophoniques qui m'ont fait énormément plaisir. Voilà, je l'ai passé. Non, alors, plusieurs éléments. Effectivement, moi, le truc des 14 Français dans le top 100 et de la placing table, et on se félicite qu'il y ait du volume, j'ai fait quand même un petit peu de travail de recherche. En 2008, nous avions exactement 14 Français dans le top 100 à la fin de l'année. La différence, c'est qu'on en avait 2 dans le top 10.
Eh oui.
C'était Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon à 6 et 7. Que Gaël, mon fils, était 14e. Et que si Paul-Henri Mathieu était donc pas 30, mais était 31, on en avait quasiment 5 dans le top 30. Quasiment 5 dans le top 30.
C'était pas la même densité.
Aujourd'hui, Voilà, aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Et malheureusement, et je, là où je rejoins Eric, c'est ça peut être frustrant ou ça peut être de la malchance ou ça peut être un petit peu des deux. C'est qu'on pensait tous vraiment, quand Arthur Fils a enchaîné car à Indian Wells, car à Miami, qu'il accroche énormément Alcaraz à Monte Carlo, que c'était parti, qu'il allait finir entre 7 et 10, c'était quasiment écrit. Et depuis Roland-Garros, il a quasiment joué aucun match. Il a tenté de faire un retour au Canada et puis il a vu qu'il ne pouvait pas jouer et certainement là sa saison est terminée. Donc en fait, à la frustration, parce que tu sens que le potentiel, au moins pour Arthur, qui pour moi, quand on voit le top 10 actuel et que tu vois des joueurs comme Taylor Fritz dans le top 10, comme Alex de Minaur dans le top 10, je pourrais en citer d'autres, on se dit qu'Arthur a le potentiel de faire ça, mais, et mon grand mais, c'est que la gestion de la blessure fait totalement partie de la gestion d'une carrière professionnelle et que c'est la plus grande difficulté, je vais même au-delà, c'est la plus grande difficulté, c'est d'arriver à enchaîner les saisons, les tournois, le changement de surface, le décalage horaire, les avions, etc. et de ne pas se blesser, ou en tout cas le moins possible, et de faire des
saisons. Mais là, tu veux dire que la blessure, c'est la conséquence? La gestion,
je veux dire qu'il faut arriver à ce qu'il apprenne à avoir certainement une meilleure gestion et qu'il fasse le point avec ses équipes, avec sa programmation, comment
comme
il s'entraîne,
Dembélé
etc. Ça, c'est à lui de le faire.
Dembélé a connu le même genre de problème avec les blessures pendant des années quand il était au Barça.
Et, exactement.
Et il a cette récurrence de blessures ne vient pas de nulle part. Il faut régler le problème, ça c'est sûr.
Marion. Et comme pour Hugo Humbert aussi, ça a été malheureusement ce qui lui a fait défaut cette année. Mais lorsqu'on reprend, et je vais passer ensuite sur la partie du tennis féminin, parce que pour moi, c'est très important d'arriver à dissocier. Quand on reprend les générations précédentes, même sans aller jusqu'à Yannick Noah, qui est effectivement l'exemple ultime du champion français avec son titre à Roland-Garros, une place de troisième mondial, 275 semaines dans le top 10. Joe Wilfried Tsonga, était quand même 261 semaines dans le top 10. Cinquième mondial à son meilleur classement. Guy Forget, Sébastien Grosjean étaient quatrième mondial à leur meilleur classement. Guy Forget a remporté l'ex-Paris-Bercy, maintenant qui a été bougé à la Défense Arena, était à de très nombreuses reprises qualifié pour le Masters de fin d'année. Henri Lecomte, Cédric Pioline, Gaël Monfils, Gilles Simon, Richard Gasquet, Arnaud Clément, Lucas Pouille. On a besoin d'avoir par génération au minimum, alors on a été gâté parfois avec deux ou trois ou quatre, mais au minimum un joueur qui est installé dans le top 10 et qui va très régulièrement aller en quart, en demi, voire en finale d'un tournoi du Grand Chelem, en quart, en demi, en finale d'un Master 1000, qui va se qualifier pour le Master de fin d'année. Le tennis français en a besoin. On a un Grand Chelem, un Master 1000 et de très nombreux tournois tout au long de l'année qui sont organisés par la Fédération française de tennis. On en a absolument besoin. C'est vital pour le tennis français.
C'est la trajectoire. Attends, on va parler de tennis féminin dans quelques instants. Mais d'abord, Jérôme.
Non, mais je dis, Marion dit, on a besoin. Je pense, un garçon comme Hugo Humbert et Arthur Fils en plus, et je pense que c'est lui qui porte les espoirs à ce niveau-là.
Oui,
c'est la trajectoire qui serait la logique pour lui. Alors évidemment qu'il faut qu'il se sorte de ses blessures récurrentes, mais quand même, il a montré un potentiel, comme tu dis, il a quand même accroché Alcaraz à Monte Carlo. Il a montré un tennis qui devrait le mener régulièrement dans ce dernier cas. Mais c'est pour ça que c'est encourageant.
Mais oui, mais là,
on n'en aura pas 10, mais on en aura peut-être 2, mais c'est très bien
oui,
déjà
mais
d'avoir
tu sais, entre être avoir la possibilité de le faire.
Mais oui, c'est un monde.
Évidemment, Marion,
mais on
n'a
pas
ce débat. Énorme, colossal.
Entre nous, sportifs, il peut. Mais il y en a bien qui
arrivent quand même. Tu as le droit de voir par rapport à tes impressions. C'est vrai qu'on a des impressions, des bonnes impressions, des bonnes sensations par rapport à Arthur Fils. Il y a tellement d'espoir.
Et ouais, tellement mais bon, là, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu aussi.
Non, mais il y a tellement d'attentes. C'est vrai que
c'est plus quoi
la frustration, c'est que derrière, il n'y a rien eu. Donc si tu veux, c'est pour ça que je ne peux pas dire en gros.
Et c'est le cas dans le vélo aussi, quelques prémices de quelque chose, mais tellement oui, on a la date
non, mais
de
regarde
ça,
l'Italie.
On en fait des champions. C'est pas le cas non, avec Arthur Fils. Je pense qu'il a quand même déjà démontré un
oui, mais c'est le bon exemple, justement, de ce qu'on dit par rapport à une saison encourageante ou décevante.
L'Italie a une grosse densité, mais là où
non, mais l'Italie, t'as 4 joueurs dans le top 30.
L'Italie, c'est la France d'avant.
Dans le top 10.
Non, mais
oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça.
Tu peux pas te reposer derrière une blessure. C'est-à-dire que toi, tu prends en compte la blessure. Tu dis, il y a une blessure, donc, mais c'est quand même encourageant. Non.
Julien nous appelle au 32-16. Fan de tennis. On va en parler dans quelques instants. Justement, on va juste boucler sur le tennis masculin. Julien, merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. Encourageante ou décevante la saison des Français françaises?
C'est bien de tout.
Bonjour les GG. Salut. Alors, pour moi, il n'y a quasiment pas débat. C'est très encourageant. Alors, je vais me focaliser un peu plus sur le tennis masculin là, mais Arthur Mont, Gaël Monfils, il lance parfaitement la saison, il gagne à Auckland, il fait un beau parcours en Australie, forcément, il a bientôt 40 ans, donc il ménage un peu son calendrier. Mais attendez, le Corentin Moutet, il nous a régalé. Atman, vous l'avez dit, à Cincinnati, qui s'attendait à un parcours comme celui-ci? On a Rinderknecht et la cousinade, là, il y a quelques semaines à Shanghai. Alors, franchement, non, des surprises, on en a eu, des belles surprises. Pour moi, Arthur Fils et un petit Péricard en 2026, c'est de grands espoirs, ils vont continuer à progresser. Et on a Hugo Humbert qui a été chahuté par les blessures tout au long de l'année. Pour moi, c'est une très belle année de transition. J'attendais même pas autant.
Transition. Mais 20 ans, on fait de la transition quand même. Au bout d'un moment, la transition, il faudrait qu'elle amène quelque chose.
Oui, mais la question, c'est de savoir si la saison était encourageante ou décevante. C'est pas de se projeter.
Alors, à ce moment-là, on a jamais eu de champion en France, alors. Non, mais si on part du fait que ça soit fantastique qu'un joueur arrive à passer par des qualifications pour être en demi d'un Master 1000, donc on oublie ceux qui ont gagné des Master 1000, on oublie ceux qui ont fait finale de Grand Chelem, on oublie ceux qui ont gagné un tournoi du Grand Chelem, alors on n'a jamais eu de tennis en France, alors.
On n'a pas franchi un cap quand même, Eric Salio?
Non, mais on parle de quoi? Je comprends pas, je comprends pas, Eric... au départ, quels sont les critères?
Non, mais il y a de l'espoir. Non, il faut pas voir tout noir. Effectivement, il y a Arthur Rinderknecht qui fait finale à la Masters 1000, c'est top.
Ah, il faudrait.
Maintenant,
Atman en début de saison.
Maintenant, le juge de paix, c'est les grands chelems.
C'est ça. Oui.
Et là, vraiment, là, on n'est pas très performant. Faut dire les choses. Parce que c'est bien que Terence Atman ait fait une demi, mais vous avez vu ses résultats.
On n'est pas performant. Nous sommes chez les dames, en tout cas sur une performance ponctuelle, celle de Loïse Boisson à Roland-Garros. Marion, tu voulais parler des filles derrière Loïse Boisson et cette performance-là. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Non, mais on a une joueuse aujourd'hui dans le top 50. Une. Et c'est Loïse qu'on attendait pas du tout, qui a fait absolument un exploit retentissant en obtenant une invitation, en revenant d'une blessure majeure avec des ligaments croisés pour elle, et qui arrive à faire une demi-finale de Roland-Garros. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Loïse Boisson qui fait cet exploit monumental, qui était quasiment imprévisible parce que ça arrive extrêmement rarement, on n'a même pas une joueuse dans le top 50 à la fin de l'année. Moi, je veux bien qu'on m'explique ça, que ce soit exceptionnel, mais là, à un moment donné, c'est pas possible. On avait quand même, je vous rappelle, dans les générations, la génération c'est de Sarah Pitowski qui travaille avec nous. On avait quand même Amélie Mauresmo, Marie Pierce, Nathalie Dechy, Émilie Loi, Angèle Sido, Sarah Pitowski. Toutes ces joueuses-là étaient dans le top 50. S'il vous plaît,
c'est quoi le problème?
Non, mais on ne peut pas.
Non, mais là, on est
la France.
Elle a raison, Marie.
Non, mais quand on est la France, quand on est la France, quand t'as été un pays avec Amélie Mauresmo, qui a été numéro un mondial, qui a remporté la Fed Cup, qui a remporté deux tournois du Grand Chelem, avec Marie Pierce, qui a remporté deux tournois
avec
du Grand Chelem, quand on a eu, non, mais je suis pas là pour me citer, Caroline Garcia, qui a été quatrième mondiale, qui a été demi-finaliste à l'US Open, qui a remporté le Masters de fin d'année, on peut pas se dire que c'est une année encourageante d'avoir une joueuse en top 50. Alors là, je suis désolée, mais là, vous pouvez pas m'expliquer ça. C'est pas possible. Alors, on peut me dire qu'il y a effectivement, malheureusement, que c'est un trou générationnel, que c'est pas le bon moment, qu'il y en a qui sont partis, qu'il y en a d'autres qui doivent arriver, qui arrivent pas. Il y a pas de souci. On peut tout entendre.
Ou alors, ça bosse mal.
Et on peut pas me dire que c'est une année encourageante chez les filles. Là, je suis désolée, je peux pas l'entendre. C'est Loïse Boisson qui sauve complètement l'année du tennis français avec sa demi, qui a ramené un public, et les gens étaient hyper enthousiastes. Elle a complètement illuminé son Roland Garros, mais c'est un exploit personnel. On ne peut pas penser sur un exploit personnel comme ça qui vient de nulle part et qui était fantastique pour elle, et je lui souhaite de continuer et d'aller nettement plus haut, mais on peut pas se satisfaire d'une joueuse dans le top 50 aujourd'hui, c'est pas possible.
Le coup de gueule de Mario Bartoli pour mettre un petit coup de boost au tennis féminin français, le message est passé.
Un peu de bonne humeur, de joie, d'espoir, mais non.
Eh bien non, tu es recalé,
puis là on en fait
un. Alors, mais figure-toi mon cher Jérôme, que tu as gagné un petit point, puisque sur le compte X des grandeurs du sport,
vous êtes bonheur pour voter pour ça.
51% à juger la saison du tennis français décevante. Donc je pense qu'effectivement la demi de Loïse Boisson dans la balance va forcément changer un petit peu la perception. En paddle,
on est bien.
C'est que Marion adore le paddle. Toute la semaine, elle me dit j'ai envie de jouer au paddle, j'ai envie de jouer au pickleball avec André Agassi. Tous ces trucs.
Non, moi j'ai envie que des Français, des Françaises gagnent le tournoi du Grand Chelem.
Et voilà, on veut des champions.
Je joue
au beach tennis cet été. C'était
vachement
sympa. C'est pas là où tu t'es blessé?
T'es fragile avec tes poignets. Hein.
Allez, on en parle dans quelques instants. Christophe, fais attention à toi, ne te blesse pas, parce que tu devras prendre le brassard de capitaine pour nous parler des Bleus qui vont retrouver les Springboks dans une semaine au Stade de France.
Ça pique.
Et si c'était eux? Et si c'était eux, les ennemis numéro, public numéro 1. Je vais y arriver à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Avec Marion Bartoli, avec Christophe Cessieux, avec Denis Charvet, Jérôme Pineau. Je remercie Eric Salio qui était avec nous. Eric,
oui, on se retrouve.
Pour ça,
reste
avec non, nous, Eric.
C'est pas vraiment top
de tête. Mais oui, reste, Eric.
Parce que si on lui dit pas au revoir, il reste.
Participe, Eric.
Tu vois, il reste dans le studio, il voit Apolline de Malherbe arriver lundi et tout. Bonjour, on m'a pas dit au revoir.
Je suis toujours là. Il a quand même une demi-finale à aller commenter cet après-midi, là.
Deux même.
Tu seras
avec moi ou pas?
Deuxième à 17h, bien sûr.
Ojeda Yassim, Bublik, je rappelle, et on a les chances Sinner, Zverev, à suivre avec toi, Eric, tout à l'heure. Évidemment, on en parlera largement aussi demain à 19h30, Marion, dans Bartoli Time, avec les invités, le vainqueur, on l'espère, avec nous. Dans un instant, les GG vont vous prédire l'avenir du sport, pas avec une boule de cristal, mais avec du fond, je vous le promets. C'est le j'y crois pas que l'on va inaugurer dans quelques instants.
Que c'est que cette invention
avec nous. Ah, vous savez, avec Max Abou.
Ça bosse.
Réfléchis,
voilà. J'ai passé deux jours avec eux la semaine dernière, je peux dire que ça bosse.
Ah ouais, non mais attendez les gars, les amis, je peux vous dire qu'on est un peu comme vous.
Il y a de la fumée qui sort.
Non, mais à votre contact, les sportifs de haut niveau, on apprend la remise en cause perpétuelle et tout ça. Donc,
dès qu'une rubrique marche pas, paf, il dégage. J'ai très très peur avec mon brassard. Je peux vous dire, je tremble.
Ah, bah tiens, on va vérifier tout de suite. Captain Cessieux pour le brassard.
RMC, Captain Cessieux met le brassard.
Alors attention, écoutez bien, parce que je vous préviens, dans les couloirs de la rédaction, il était à fond là-dessus. Toute la semaine, on a une semaine de France-Afrique du Sud, les retrouvailles depuis la finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans perdues par nos Français.
Tu veux nous parler
de ça, Christophe? C'est pas les mauvais souvenirs.
Oui. Je vais vous parler des ennemis du rugby français, parce que c'est vrai que pendant des lustres, le rugbyman français n'avait qu'un seul ennemi, genou cagneux, oreille décollée, une rose rouge sur fond blanc. Le roast beef des champs était l'homme à abattre et son équipe, celle qu'il fallait vaincre à tout prix une fois l'an. Oui, l'Angleterre, la perfide Albion devait être vaincue, histoire de venger à la fois Jeanne d'Arc, Fashoda et les fameux sorry, good game prononcés trop souvent par les capitaines du 15 de la Rose.
Tout ça, ouais.
Peu importe d'ailleurs si le samedi suivant on se faisait battre par l'Écosse ou humilié par le pays de Galles, non, l'Anglais battu, l'honneur était sauf et la saison sauvée. Mais ça, c'était avant, car si nous aimons toujours autant botter le train du 15 de la Rose, nous avons depuis découvert un autre ennemi public numéro 1. Et celui-ci est encore plus rude que l'anglais. Oui, l'air de l'Afrique, ses grands espaces, les animaux sauvages qui le peuplent, ont fait les Springboks des Golgothes qui font frémir à l'idée de les affronter sur le terrain. Des monstres de puissance et de violence qui, pendant des décennies, n'avaient que ça, et c'était déjà pas mal, à opposer à leurs adversaires. Du coup, le français, plus malin, genre Denis, parvenait parfois à vaincre la force brute du Sud-Africain à coups de malice et de French flair.
Bravo Denis.
Le problème, c'est qu'à la puissance, l'Afrique du Sud a ajouté depuis quelques années d'autres cordes à son arc qui ont fait de cette équipe la double championne du monde en titre. Une formation qui, il y a 2 ans, rappelez-vous, était venue un soir d'octobre au Stade de France enterrer les espoirs de la bande à Dupont et de la bande à Charvet. Et pas qu'avec ses muscles, non, ce soir-là, les box d'Erasmus avaient donné une leçon de réalisme, de tactique, mais aussi de triche au bleu de France.
Ah bon ?
Une défaite, oui. Oh. 2 ans plus tard, nous restons encore en travers de la gorge et pas qu'un peu, d'autant qu'il y a quelques semaines, nos nouveaux ennemis se sont fait un plaisir de nous chambrer sur les réseaux sociaux en diffusant l'action du match où Cheslin Colby vient contrer la transformation de Thomas Ramos,
bien sûr,
qui, si elle était passée, aurait pu nous offrir la victoire et la qualification pour un point.
Et pourquoi tu fais ça?
Mais à coup de pas, mais à coup de pas.
Il arrête ce phrase.
Ça, désolé, non, désolé, ça ne passe pas. L'honneur du coq de France est touché. Cet honneur, il faut le laver. Samedi prochain, sur les lieux du crime, la pelouse du Stade de France, les deux équipes vont donc se retrouver là-bas aux lèvres et l'envie d'en découdre. Cette rencontre, la première de la tournée de novembre, est sans doute le match le plus important de l'année. Plus capital encore qu'un Angleterre-France ou un Irlande-France. Au-delà de l'honneur à laver, la bande à Galtier, qui a battu toutes les autres nations de référence en quelques saisons, doit marquer son territoire et vaincre enfin cette équipe qui, en 15 ans et 8 affrontements, n'a perdu
qu'une seule fois contre la France. Oh. C'était il y a 3 ans à Marseille. Qu'on se le dise, la défaite n'est pas une option envisageable pour les Bleus. À 2 ans de la prochaine Coupe du Monde, seule la victoire nous permettrait de croire à nouveau en des rêves de gloire et des songes de Coupe du Monde. Permettrait aussi enfin d'avoir la peau de cet ennemi à la peau dure, aux muscles saillants et aux neurones plus que développés.
Non. Plus que développés. Donc ce sont eux, désormais, nous dit Christophe, ce sont les Springboks, plus que les Anglais qui deviennent l'ennemi public numéro 1 du rugby français. 21h10, je rappelle, samedi prochain au Stade de France, France-Afrique du Sud. Donc il y aura Christophe, il y aura Denis, et voilà. Et vous aurez tous la semaine spéciale, évidemment, sur RMC France-Afrique du Sud. Denis, tiens d'abord, est-ce que tu es d'accord avec le capitaine Cessieux? Les Box sont désormais tout là-haut dans l'échelle de nos ennemis.
Après, quand tu parles de triche, non, parce que c'est exagéré, mais après, il faut reconnaître la force des Springboks, l'intelligence des Springboks. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe au monde. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, on va affronter les meilleurs samedi prochain. Mais pour ça, ils ont travaillé. Pour ça, ils ont réussi à changer beaucoup de choses dans leur stratégie. On le voit aujourd'hui, les trois quarts sont devenus très performants, presque aussi performants que les nôtres. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas de faille. Il n'y a pas de faille. Je pense que même l'équipe de samedi sera plus forte que celle d'il y a 2 ans. Je le pense
vraiment.
Ils ont mis une tôle au All Black.
All Black chez lui, ils ont mis 42 points. Ils ont progressé dans tous les domaines du jeu. Ils ont un demi d'ouverture qui est arrivé de je ne sais d'où, qui est un des meilleurs demi d'ouverture au monde déjà. Ils n'avaient pas besoin de ça, mais bon, ils ont trouvé l'oiseau rare. Donc voilà, il n'y a plus de faille. Il n'y a plus de faille. Et puis surtout devant, c'est des monstres.
On n'a aucune chance en fait. Denis.
Devant, je crois que le pack, j'en parlais avec Vincent Moscato, je crois qu'il fait pratiquement une tonne. Donc c'est-à-dire que les deux piliers font 140 kilos, entre 125 et 140 kilos. Et puis la seconde ligne, ils font du 120 bars, les troisièmes lignes aussi. C'est très très lourd, c'est très costaud, et puis surtout, ça lâche.
Tout ça élevé au pain sec et à l'eau, évidemment. Hein.
Ce sont eux, mais désormais, les ennemis pour toi, Denis.
Ah oui.
Là, t'es joueur du 15 de France, aujourd'hui, t'arrives au Stade de France.
Ah, mais
t'es plus motivé contre les Box, contre les Anglais.
C'est passé devant les Anglais.
Ah oui, c'est passé devant les Anglais, en plus du fait que t'as perdu en quart de finale.
Oui, mais d'accord, c'est une revanche.
Non, non, ils t'ont brisé le rêve, c'est pire que ça. Les Français ont été touchés dans leur amour propre.
Moi, je peux te dire.
J'ai discuté avec des joueurs.
Mais le crunch est tous les ans, les Box, tu les affrontes pas tout le temps déjà.
Je vais te dire, j'ai discuté avec des joueurs qui ont pris ce match, mais il est encore en travers la gorge. Ils ont dû penser tous les jours. Et là, je vais te dire, ceux qui vont. Alors, effectivement, il n'y a pas les 15 d'il y a deux ans, puisqu'il va y en avoir 4 ou 5, je pense, sur le terrain, qui vont affronter les Box. Mais ils vont tous y penser, c'est évident. Je sais que j'avais parlé avec Greg Aldrit aussi, tout ça. Moi, ils ont c'est une blessure qui est inimaginable.
C'est CV82, du rugby, en fait. CV82. Le France-Allemagne.
Je voudrais juste finir avec les Springboks avec un manager qui est pour moi hors norme, qui s'appelle Erasmus. On a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la recherche. Il a été 2 fois champion du monde, quand même, avec cette équipe des Springboks, puisqu'il a été en 2019-2023. C'est un mec qui n'arrête pas de réfléchir, d'avoir une réflexion.
Il a toujours un coup d'avance.
On le sait, il envoyait des vidéos aux arbitres. Il était culotté. Quand il est manager d'une équipe nationale, tu ne peux pas le faire. Mais lui, il le fait. Il envoie des vidéos en montrant, regardez, attention.
C'est lui qui a créé le squad bomb aussi, tu sais, cette équipe composée de ces remplaçants
réseau,
d'avant.
Jérôme, les Sudaf, c'est non, plus moi, que les Anglais pour toi?
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste.
Oui, mais c'est
rugby,
important. En fait, c'est
pour
ce
moi, l'histoire entre nos deux pays, ce que la France représente par rapport à l'Angleterre. Est-ce que les Sud-Africains nous voient du même œil que nous on les voit aujourd'hui? Non. Quelque part, on est, je vais être un peu fort,
si
un peu insignifiant. Ouais.
Non.
Il y a du respect peut-être, mais important pour eux. C'est un passage. France, on est sur leur passage.
C'est pas vrai.
L'ennemi de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est les Blacks, c'est l'Australie.
Non,
c'est pas la France.
La France.
Et nous, il y a cette histoire des deux pays. Pour moi, l'ennemi public, c'est au-delà de le France-Angleterre en rugby. Représente quelque chose plus large que le sport. C'est pas la même chose sur un terrain de football. C'est le France-Angleterre du rugby.
T'oublies que
représente cette bataille et cette tradition anglaise, cette histoire entre nos deux pays.
Jérôme, tu mesures pas à quel point cette équipe sud-africaine qui était 2 fois championne du monde, elle est quasiment imbattable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle représente ce qui se fait de mieux.
On parle de
mieux.
Sport, mais non, je pense que l'ennemi
le
public.
Sport, t'as envie de battre le meilleur.
Mais non, va, oui, mais l'histoire du crunch, l'histoire de France-Angleterre va au-delà du sport.
Non, pas aujourd'hui.
Marion, pour toi, le traumatisme d'il y a deux ans du France-Afrique du Sud, justement, écrase tout et fait que maintenant, c'est eux qu'on a absolument envie de battre.
Mais je rejoins moi totalement Christophe et Denis. Je pense qu'effectivement, alors le premier match entre les deux nations remonte quand même en 1913. Ils se sont affrontés 45 fois la France et l'Afrique du Sud. Et malheureusement, il y a eu beaucoup plus de victoires sud-africaines que de victoires françaises. Mais en fait, il y a plusieurs éléments marquants pour moi. Il y a effectivement ce match-là en France où c'est un crève-cœur, mais total. Enfin, on a tous les images de tous les joueurs français qui sont mais complètement
au sol,
effondrés. Au sol du pont à la fin du match, déjà
avec le masque.
Après ça, c'est très très compliqué. T'as Durban, la demi-finale de la Coupe du Monde en 95 où tu perds 19-15
sur un
terrain détrempé.
C'est important de le rappeler.
Sur un terrain détrempé dans des conditions qui sont dantesques et tu repères. Et en fait, comme l'a très bien dit Denis, aujourd'hui, ce sont les meilleurs mondiaux. Donc la France a envie de se confronter aux meilleurs mondiaux. Il y a un passif extrêmement récent et un passif plus ancien. C'est le match. C'est le match à aller chercher. C'est le match où tu vas absolument gagner. C'est le match où il faut laver l'affront d'avoir volé ton rêve chez toi.
Tu laveras jamais l'affront. C'était pendant une Coupe du Monde et là c'est un match.
C'est celui qu'il faut essayer, quoi. Qu'il faut essayer d'aller.
C'est un test match. Ça compte. Ça compte pas autant évidemment.
Évidemment pas autant. Denis, on court après la Coupe du Monde.
Mais en vue de la prochaine Coupe du Monde, c'est
en vue. Mais encore une fois, en vue et à chaque fois, on connaît l'histoire.
Tiens, je vous invite à écouter notre podcast rugby RMC entre les poteaux tous les lundis et vendredis que vous trouvez sur toutes les plateformes de téléchargement avec Denis lundi. On a parlé, que reste-t-il de France-Afrique du Sud 2023, justement, où chacun raconte son expérience personnelle, tous les commentateurs qui étaient au stade. Et Denis, tu disais que c'est le match, le pire match.
Ah ouais, le pire match, en tant que spectateur, même joueur, c'est la plus grande déception. D'amoureux du rugby, on va dire. Voilà, c'était l'attente était tellement folle. On pensait être tous champions du monde et que là, tout
le
monde s'est écroulé et la Coupe du Monde s'est arrêtée à la minute où l'arbitre a sifflé la fin du match.
Devant les finales perdues par le 15 de France.
Oui, oui,
la Coupe du Monde.
Oui, tout.
T'es d'accord, Chris?
On est 15
octobre 2023, on l'oubliera jamais.
On était ensemble avec Denis et Wilfried. On s'est regardé tous les trois. On a l'impression que le ciel venait nous tomber sur la tête.
Absolument.
Le rêve s'envolait. Alors, franchement, on pensait aller au bout pour une fois.
On pensait que
c'est. Et là, le truc s'arrête, tac, d'un coup.
Mais c'est-à-dire que
quand tu te fais taper en demi-finale, t'as encore une semaine parce que t'as la petite finale, mais là, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Tu rentres à la maison. Et voilà.
Oh là là, vous m'en parlez. Je me sens pas bien.
On va évoquer un autre grand moment du rugby français qui était exactement l'inverse.
Et exactement. Demain, les GG remontent le temps à la plus belle victoire peut-être du 15 de France dans son histoire et peut-être l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby. Je vous en dis pas plus. Mais il y a les maillots bleus et les maillots noirs.
Oh, quel cheesy.
On a déjà beaucoup. Allez, dans quelques instants, tiens, on va inaugurer une nouvelle rubrique. J'y crois, j'y crois pas. On va inaugurer ça avec les grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport avec Mario Bartoli, Christophe Cessieux, Denis Charvet et Jérôme Pinault. Tiens, dans un instant, après 11h, on va ouvrir la porte du vestiaire aujourd'hui. Vous allez nous expliquer comment on gère l'état de grâce. Regardez, Vacherot, Wemby, Simon Gauzy en ping. On a l'impression que tout ce qui tentait depuis quelques semaines marchait. Et vous avez eu des moments comme ça, vous marchez sur l'eau. On va en parler ensemble. En fin d'émission, je vous rappelle, participez avec vos GG au jeu du sport. Aujourd'hui, un smartphone Stellar X5S édition Chamonix Mont Blanc a gagné. C'est le nouveau smartphone outdoor de la marque française CrossCall. Pour remporter votre smartphone CrossCall, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 73216. Sport au 73216. Les GG, j'espère que vous êtes prêtes puisque tout de suite on inaugure une nouvelle rubrique. J'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
J'aurais voulu voir Cessieux Charvet dans les années disco un peu. Ça devait envoyer du bois dans les verres.
C'est vrai.
Attention, ça devait chauffer.
Ah là, il a renroulé les épaules, Denis.
Sur
hein.
Le dance floor.
Ça devait envoyer un peu.
Il y avait des pattes d'œuf ou pas, Denis?
C'est Christophe, les pattes
d'œuf. Je suis, n'oublie pas, beaucoup plus jeune que toi. Trois ans de moi. Trois ans de moi et ça va voir vraiment.
Allez, je vais vous expliquer le principe du j'y crois, j'y crois pas. Je vais vous annoncer des questionnements par rapport au week-end de sport ou à ce qui se passe actuellement. Vous allez me dire si vous y croyez, vous y croyez pas. Tout simplement. J'y crois pas, les GG. Victor Wembanyama, qui connaît un début de saison canon à NBA, va devenir plus populaire qu'Antoine Dupont en France. Mario Bartoli, j'y crois, j'y crois pas.
Je pense que c'est générationnel. Je pense qu'il peut devenir plus populaire chez les jeunes. Ouais. Parce que la NBA, c'est plutôt quand même suivi par les jeunes pendant.
On développe après.
Ou sur les réseaux sociaux.
Donc, Jérôme, j'y crois, j'y crois pas.
Non, j'y crois pas.
Denis ?
S'il gagne à l'équipe de France de grand tournoi, oui.
T'y crois, Christophe ?
Ça dépend de quelle France tu parles.
Alors, parce c'est intéressant.
Parce que Wembley et Dupont représentent deux Frances différentes pour moi.
Exactement.
C'est ce que voulait dire Marion, je pense aussi.
Oui, ouais.
Effectivement, tu as Wembley qui est la France urbaine, périurbaine, la France des jeunes, la France des gens qui ne regardent pas la télé mais qui sont sur leurs petits écrans. C'est des gamins de 10 à 25 ans. Dupont, bah, c'est une autre France. C'est la France de la province. La France rurale, la France des grandes villes, des centres-villes, et la France qui regarde encore la télé et qui, notamment, aime bien voir Dupont le samedi soir ou le
c'est
samedi
après-midi. C'est pas un peu caricatural, ça,
à la télé.
Non, mais, je pense pas.
C'est peut-être c'est un peu caricatural, mais ça ressemble vraiment à ça. Madame Michu, ouais. Madame Michu, tu crois qu'elle le connaît, Wembanyama ? Elle sait même pas prononcer son nom. Et tu penses qu'il va passer devant Antoine Dupont ?
Oui, mais...
Dupont, c'est facile à comprendre, c'est facile à écrire. Tout le monde s'appelle Dupont.
C'est sûr, c'est le nom le plus commun en France.
Pour répondre au débat, à la question.
Ah bah oui, bien sûr, c'est on est là pour ça.
T'es obligé de parler de Tony Parker.
Mais pourquoi ?
Parce que Tony Parker, est-ce qu'aujourd'hui il est populaire ou
Ah oui, mais attention, Tony Parker, oui, il n'était pas star comme les Victor Wembanyama, qui est la star de son équipe.
Là,
Tony Parker, c'était un rouage dans les Spurs de Duncan et Ginobili.
Sauf qu'on anticipe, sauf que Tony Parker a gagné avec l'équipe de France.
A gagné avec l'équipe de France.
Donc je veux dire, c'est pour ça que je te dis ça en préambule, c'est que je pense que si Wembanyama.
Bon, bah déjà,
laissons-le terminer. Laissons-le terminer. Vas-y, Denis.
Wembanyama.
Ah, mais voilà, tu
vois. Oui, ça
va. Emporté sur le
Ouais, mais en fait, tu veux aller trop vite à Adam.
Wemby, c'est mieux. Ouais. Non, mais s'il joue avec l'équipe de France, d'ailleurs, il a fait quand même un tournoi olympique super.
Il était très bon.
Il était très bon déjà. Donc, je veux dire, s'il enchaîne les compétitions avec l'équipe de France, qui gagne l'Euro, qui gagne le champion du monde, qui gagne. Mais tu verras qu'il sera très, très populaire. Je le pense vraiment.
Après, attention, c'est pas la même époque aussi. La NBA, à l'époque de la NBA, le Tony Parker, c'était pas aussi développé qu'à l'époque de Wemby.
Je te parle des grandes compétitions. Je te dis que s'il gagne les grandes compétitions, en France, il sera très populaire.
Mais
pour ça, il faudra qu'il joue. On a vu avec le San Antonio déjà, cette année, il n'est pas venu. Bon, il était blessé, c'est vrai.
Ah, il était blessé, ouais. Pour le coup, il a joué avec personne.
Oui, mais je pense qu'il n'était pas sûr qu'il vienne non plus. Mais
parce qu'il voulait s'assurer d'être au meilleur niveau et c'est ce qu'il montre actuellement avec les
sports. Oui, mais ça veut dire que tu penses qu'un Wembanyama, capitaine de l'équipe de France de basket, championne olympique, ce serait plus important qu'un Antoine Dupont, champion du monde de rugby avec l'équipe de France en Australie.
Oui, alors tu compares
champion du monde. Ah non, mais champion du monde, champion olympique. Ce sera le nec plus ultra en équipe nationale. Et c'est ce qui fait leur renommée. C'est les titres remportés.
Attention, tu parles de champion olympique, justement, l'olympisme, c'est.
Oui,
c'est
sauf que l'olympisme est noyé dans 15 jours de compétition et que le titre olympique, on l'oublie souvent un petit peu parce que le lendemain, il y a.
Et si tu gagnes les States aux États-Unis, imagine.
Quel pays ?
Oui, non, mais oui.
Les States ?
Ok, d'accord.
States.
Jérôme.
States.
Non, je pense que Wemby va devenir l'idole d'une certaine population et surtout une idole qu'on ne verra pas souvent. Qui viendra de temps en temps et quand il vient sur le territoire français ou européen, ce sera notre star temporelle. Mais la récurrence et le fait que Dupont soit au Stade Toulousain, d'ailleurs il va prolonger, qu'il gagne des trophées, qu'il vit jusqu'en 2031, l'équipe de France, qu'il joue aux deux rugby. Je pense que sa médaille olympique a rendu encore plus populaire Dupont.
Oui, bien sûr.
Il est Mister parfait, c'est Mister parfait.
Et en plus,
il est fiancé avec une Miss. Il est bien élevé, il est sympa.
Tony Parker dans les foyers français est entré le jour où il est sorti avec une star du cinéma.
Non mais Mario, est-ce que le Wemby il va pas être plus connu finalement hors de France qu'en France ?
Bien sûr, ça dépendra des tournois.
Déjà, hyper connu aux États-Unis. États-Unis, oui, bien, bah oui, bien sûr.
Bah, quand même.
Non, mais aux États-Unis, il a une cote de popularité qui est énorme,
c'est une star américaine.
Qui est colossale. Mais bon, moi, je pense que sur une génération, effectivement, comme l'a évoqué tout à l'heure, à très juste titre Christophe, je pense que les 10-25 ans qui sont beaucoup plus connectés, pardon, sur les plateformes des réseaux sociaux, qui ont TikTok, qui ont Snapchat, qui ont Instagram, qui regardent des vidéos de 10-15 secondes, qui voient les highlights à chaque fois de Wemby, ouais, tous les week-ends en NBA, je pense que ça peut vraiment énormément les marquer. Mais c'est vrai que pour d'autres consommateurs de sport qui aiment bien aller au stade avec leurs enfants, qui aiment bien regarder les matchs chaque semaine, bien évidemment les grosses compétitions avec l'équipe de France, je pense qu'Antoine Dupont restera au-dessus. Après, quelqu'un peut nous surprendre s'il devient MVP de la NBA, s'il remporte d'énormes compétitions avec l'équipe de France, qui met 40 points, ouais, je pense qu'il peut arriver à avoir une certaine reconnaissance auprès d'un autre public. Mais je pense que chez les jeunes, il fera une grosse différence, oui.
Allez, on enchaîne, les amis. En tennis de table, c'est le tournoi Champions WTT de Montpellier à suivre sur RMC ce week-end. Yeah. J'y crois pas. Le tennis de table va renverser le tennis sans table en France. D'abord pour rigoler, tiens.
Bah, évidemment.
Jérôme, oui.
Si les Français continuent de performer comme ça, why not, quoi.
Mario ?
Non, Mario, mais jamais, mais arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît.
À top 30, il y a déjà des Français dans le top 30.
Mais ce que font les Lebrun avec Gozzi, c'est exceptionnel.
Ah, mais tu sais quoi ? Le biathlon est passé devant le ski alpin, par exemple.
Bah, oui, non. Et pas se moquer, Mario, faut pas se moquer, parce que ce qu'ils
bientôt le paddle aujourd'hui,
c'est pas du tout. On les a eu dans Bartoli Time il y a une semaine. Arrête. Je te dis, je veux quand même pas qu'ils passent.
Oui, bien sûr.
Je rappelle, 1 200 000
David plus.
1 200 000 pour le tennis en France, 254 000 pour le ping encore. Oui. Léna Marjac est à Montpellier pour nous faire vivre ce tournoi.
Elle a jeté sa raquette de tennis à la table de raquette de ping-pong maintenant.
Salut Léna.
Salut tout le monde.
Alors la question qu'on va se poser aussi, c'est j'y crois pas, Simon Gauzy va gagner le tournoi après avoir mangé les deux frères Lebrun ce week-end.
Alexis, est-ce a eu chaud possible là.
Alexis a eu chaud hier soir. C'est la chance de sa vie ce week-end là pour Simon Gauzy, le troisième larron du ping français, Léna.
Ah, c'est clairement la chance de sa vie, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est dans la forme de sa vie. Un tournoi gagné cette année, une demi-finale d'un grand smash, c'est l'équivalent d'ailleurs d'un grand chelem au tennis. Il est champion d'Europe par équipe avec les Bleus en étant un homme important du sacre. De 32e mondial en août, il est aujourd'hui 17e. Et donc je dis à Montpellier, Gozzi bat pour la première fois de sa carrière à 31 ans, Félix Lebrun, après 8 tentatives, c'est dire. Et puis il y a une autre raison, c'est le tableau aussi de ce WTT Champions de Montpellier. En sortant Félix, Simon s'est ouvert un peu plus sa partie de tableau, déserté des Chinois, tous éliminés. La tête de série 1 est sortie aussi. Alors certes, Simon sur le papier n'est pas le favori, mais les adversaires sont à sa portée. Déjà tout à l'heure en quart face à Sora Matsushima, c'est un jeune japonais de 17 ans. Donc il faut y croire. En tout cas pour Gozzi, c'est une vraie et belle occasion à saisir. En plus, le public sera derrière lui. Oui. Il aime ces ambiances chaudes où on le pousse. Mais par contre, pour qu'ils battent les deux Lebrun dans le même tournoi, là, il faut rêver un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il faut rêver d'une finale 100% française dimanche après-midi entre Simon et Alexis Lebrun. Mais pourquoi pas, c'est vrai. Ouais.
Alors, on suit tout ça avec toi, évidemment, Léna. On y croit. On y croit, Simon Gozzi. Oui, pourquoi pas pour aller enchaîner. Merci, Léna. Tiens, je vous propose un dernier. J'y crois pas. Le Stade Toulousain reçoit le Stade Français à 21h ce soir. À suivre sur RMC dans le choc des co-leaders du top 14. J'y crois pas. Toulouse, Stade Français va redevenir cette année le grand classique du rugby français.
Pour l'instant, j'y crois pas.
Jérôme ?
Moi, j'y crois pas non plus.
Marion ?
Non, j'y crois pas trop.
Christophe ?
Non plus.
Bon, pourquoi tu crois pas, Denis ?
Parce qu'aujourd'hui, le Stade Toulousain est tellement à des années-lumière de ce que fait le Stade Français, même si si cette saison est très bonne. L'année dernière, on a vu qu'ils avaient fait une saison catastrophique. Cette année, ils sont premiers du championnat. Ils se déplacent à Toulouse, mais il faut des stars.
Non, mais il faut un adversaire au Stade Toulousain.
Voilà, oui.
Mais je pense pas que le Stade Français soit en état d'être cet adversaire.
De concurrencer.
L'UBB peut y parvenir. La Rochelle l'a fait pendant des années.
Aujourd'hui,
mais le Stade
d'ailleurs,
c'est plus du tout le même que celui qui affrontait le Stade Toulousain dans les années 90-2000.
C'était
une équipe emmenée par Max Guazzini.
C'est ce que j'allais dire.
Coachée par Bernard Laporte avec des Moscato, avec des Dominici. C'était les stars.
Alors, peut-être que cette saison, c'est trop tôt, mais peut-être qu'on a quelque chose.
Non,
Non, mais tu reconstruire.
Alors, pour faire un parallèle, tu les as à Bordeaux, ces stars-là. T'as Penaud, ouais. Bielbiaré, Jalibert, ouais. Luc. Tu les as à Bordeaux. Et aujourd'hui, tu regardes à Bordeaux, il y a une vraie rivalité entre Bordeaux et Toulouse qui existe réellement depuis 2-3 ans. Ouais. Mais c'est pas le cas. Ça,
les stars, les stars.
En tout cas, ils partent de loin. Mais hein, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à avoir quelques stars quand même. Et qu'ils arrivent à avoir.
Et surtout, avoir des résultats un peu constants. Voilà. Parce que une année, ils se battent pour le maintien. L'année d'après, ils sont dans le top 2.
Ils ont une belle équipe cette année.
Et il manque beaucoup de joueurs à Toulouse hein, là, pour ce match-là. Ils peuvent, ils peuvent gagner, ça, français.
Je sais pas, mais en tout cas.
Toulouse a toujours été l'équipe qui a le mieux assuré les doublons.
Mais en tout cas, ils ont un coup à jouer. Voilà, s'ils ne profitent pas effectivement de ces 10 absences des internationaux, ils ne le feront jamais. Je pense qu'ils ont un gros coup à jouer, oui.
Un gros coup à jouer. Merci les grandes gueules pour ce premier J'y crois pas. On va renouveler ça tous les samedis à 10h40 pour débattre. On va annoncer des trucs fous hein, parfois. Je reviens pour vous faire réagir. Allez, on revient dans quelques instants. On va ouvrir la porte de votre vestiaire, les amis. Comment gérer l'état de grâce? C'est la question que l'on va se poser alors que certains de nos sportifs marchent sur l'eau en ce moment. Vous avez connu ça, vous aussi. Et vous le connaissez aussi dans cette émission. Vous marchez sur l'eau aujourd'hui. État de grâce pour toutes les grandes gueules du sport. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.